Diana Kaufmann à me rejoindre ici pour le message. Peut-être que, ben, comme moi, vous connaissez pas très bien Diana Kaufmann. Ben, moi, c'est parce que j'ai peut-être pas assez de bouteilles ici à Villars, parce que, ben, elle a fréquenté Villars pendant 25 ans, c'est ça? Voilà. Mais c'était il y a 7 ans de ça, donc moi, j'étais pas encore membre de Villars. Alors, pour ceux qui la connaissent moins bien, ben, il fallait venir à Villars avant. Alors, elle vient régulièrement, à peu près une fois par année, comme ça, une fois tous les deux ans, pour apporter un message ici en été. Et puis, vous connaissez, peut-être si vous la connaissez pas très très bien, vous connaissez certainement ses nombreux fils, ses quatre fils qui sont très investis à plein d'endroits de Villars. Et puis, elle vient nous apporter un message. Elle m'a dit, non pas comme pasteur ou théologienne, ce qu'elle n'est pas, mais comme chacun de nous, une personne qui aime la parole de Dieu. Et puis, ce qu'elle aime spécialement, elle m'a aussi mentionné, c'est à la fin du culte, elle aime rediscuter avec les gens du message de la parole de Dieu. Donc vraiment, n'hésitez pas, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec ce qu'elle a dit, allez vers elle et vous pouvez simplement partager avec elle. Après, normalement, il y aura un apéro, donc n'hésitez pas à aller la rencontrer. Merci, Diana, de venir nous partager la parole, et puis je vais prier pour ce moment. Seigneur, on a la chance d'avoir ta parole, et merci de nous la présenter par plein de personnes différentes, par plein de manières différentes. Et Seigneur, on veut maintenant te demander d'ouvrir nos cœurs à ta parole, de bénir aussi Diana pour ce que tu lui as mis sur le cœur. Seigneur, que à travers ce moment, on puisse te connaître toujours un peu mieux. Amen.
Merci. Voilà, bonjour à tous. Comme je viens apporter le message une fois tous les deux ans, pensez bien que j'ai le temps de préparer. Et je remercie Villars pour l'invitation. Et quand je viens ici, j'ai toujours l'impression d'arriver avec une immense corbeille remplie de choses. La preuve, c'est que je dépasse toujours les 20 minutes. Ce sera le cas aussi ce matin. Et l'idée, c'est pas que chacun reparte avec toute cette grande corbeille. L'idée, c'est de se servir dans cette corbeille, de prendre ce qu'il vous faut. Donc, voilà. Ce matin, moi, j'ai choisi de me pencher sur le texte bien connu de la Samaritaine. J'avais la liberté du sujet. Et ce texte ne figure que dans l'évangile de Jean, au chapitre 4. Je n'ai pas pris en compte quelques versets qui sont un aparté entre Jésus et ses disciples. Je vais le lire, il est assez long, mais il est tellement beau. Je vais le lire dans la version de la Tob, et je vais vous demander de l'écouter comme si c'était la première fois. Est-ce que par hasard, il y a quelqu'un pour qui ce serait la première fois ? Non, donc l'effort sera à faire pour chacun. Et pour vous y aider, vous n'aurez aucun support visuel, aucune distraction possible. Quand vous entendrez le mot « Seigneur » de la bouche de la Samaritaine, il faut l'entendre sous sa forme polie. C'est une forme respectueuse, comme on dirait « Monsieur » aujourd'hui. Sinon, ça vous mettra peut-être en confusion. Ensuite, je me glisserai dans la peau de la Samaritaine, et nous revivrons cette rencontre 20 siècles plus tard avec nos conceptions actuelles et la compréhension que j'en ai aujourd'hui. C'est la richesse de la parole qui permet cela. Et vous aurez le texte sous les yeux pour comparer avec mon interprétation et voir dans quelle direction je pars. Puis ensuite, je vous partagerai brièvement quelques points forts et nous terminerons avec un temps de prière méditative que je conduirai. On y va comme ça. Jésus quitta la Judée et regagna la Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il parvint dans une ville de Samarie, appelée Sichar, non loin de la terre donnée par Jacob à son fils Joseph, la même où se trouve le puits de Jacob. fatigué du chemin, Jésus était assis tout simplement au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit, « Comment ? Toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi, une femme, une Samaritaine. » Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as même pas un seau, et le puits est profond. D'où la tiens-tu donc, cette eau vive ? Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob, qui nous a donné le puits, et qui lui-même y a bu, ainsi que ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu dis bien, je n'ai pas de mari. Tu en as eu cinq, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous affirmez qu'à Jérusalem se trouve le lieu où il faut adorer. » Jésus lui dit, « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont en effet les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Sur quoi les disciples arrivèrent. Ils s'étonnaient que Jésus parlât avec une femme. Cependant, personne ne lui dit, « Que cherches-tu ?» ou « Pourquoi lui parles-tu ?» La femme alors, abandonnant sa cruche, s'en fut à la ville et dit aux gens, « Venez donc voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et allèrent vers lui. Beaucoup de Samaritains de cette ville avaient cru en lui à cause de la parole de la femme qui attestait, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, lorsqu'ils furent arrivés près de lui, les Samaritains le prièrent de demeurer parmi eux. Et il y demeura deux jours. Bien plus nombreux encore furent ceux qui crurent à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de tes dires que nous croyons, nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Quelle belle rencontre, un brin romantique! Jésus fera-t-il enfin la connaissance de la femme de sa vie? On aimerait tellement lui en trouver une de nos jours pour le rendre encore plus humain. Le puits, lieu d'échange par excellence, lieu de rencontre amoureuse aussi. Le serviteur d'Abraham y trouve Rebecca qui épousera Isaac. Jacob, son fils, y tombe amoureux de Rachel. Moïse y rencontre sa future épouse, Sippora. Jésus y voit cette femme. Et non, il ne tombe pas amoureux. C'est une rencontre entre un homme et une femme d'une autre nature, plus riche, plus profonde, plus féconde encore. Est-ce possible ? Tiens, on dirait un homme assis là-bas, un étranger, est assis au bord du puits. Je ne le connais pas. Que fait-il là, cette heure-ci ? Il a un air de juif. Oui, c'en est un.
Donne-moi à boire.
Comment ça, lui donner à boire ? Oserais-je m'adresser la parole ainsi à moi, une femme, et qui plus est une samaritaine, il me demandait de l'eau. Il se met trois fois en impureté selon ses lois juives strictes. Les juifs nous détestent depuis que nous nous sommes séparés d'eux. Dès qu'ils sont rentrés d'exil, ils sont devenus trop rigoureux. On a le même Dieu pourtant. Nous les samaritains, nous avons le Pentateuch, cela nous suffit. Et on attend aussi la venue d'un Messie. Nous avons quelques idoles en plus, apportées par d'autres peuplades lors de leur passage. Rien de grave. Mais les juifs nous le reprochent, eux, les purs, les élus, qui ne se mélangent pas avec des non-juifs. Je ne les aime pas, on ne peut pas discuter avec eux, on n'arrivera jamais à s'entendre.
Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive.
Sa réponse est intrigante. On dirait qu'il se prend pour quelqu'un d'important. Et il inverse les rôles. J'en ai vu d'autres. Je ne m'en laisse pas compter. L'eau est bonne ici. Elle n'est pas stagnante, morte, comme on dit. Elle est courante, vive. C'est une source qui coule juste en dessous. Nos ancêtres ont creusé ce puits de 32 mètres de profondeur. L'eau est fraîche et claire. Et le juif, il veut faire comment ? Sans seau. Nous sommes au puits de Jacob, notre patriarche à tous. Se croit-il supérieur à lui ?
Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissante en vie éternelle.
Je reste perplexe. On dirait qu'il parle à un autre niveau, qu'il veut dire autre chose. Une eau qui étanche la soif, toute soif peut-être, qui se transforme en source qui jaillit jusque dans l'éternité. Le rêve, au-delà de ce que je peux imaginer et espérer. Ces paroles me parlent tout à coup, elles résonnent tout au fond de moi. Elles semblent faire écho à un appel profond que j'ai du mal à identifier. Mais je dis oui, oui, j'en veux tout de suite. Donne-moi de cette eau miraculeuse. Ne plus jamais avoir soif, ne plus venir puiser, ne plus m'épuiser en vain, ne plus organiser ma vie autour de cette soif à satisfaire, vivre autre chose.
Va, appelle ton mari et reviens ici.
Que vient faire mon mari ici ? Ce va, il le dira à d'autres aussi. Va, ta foi t'a sauvé. Va et ne pêche plus. Tu es guéri de la lèpre. Va te montrer au prêtre. Et à moi, il me dit toute autre chose. Ce qu'il y a, c'est que ma soif à moi, c'est une soif d'amour. J'ai besoin d'être aimée, d'aimer, de vivre avec un homme séduisant, généreux, attentif, aimant, fidèle. Et je pense que l'amour le plus beau, le plus noble, le plus vrai, le plus durable qu'une femme puisse vivre sur terre, c'est avec un homme. Ça fait sourire certains intérieurement, mais je sais que je ne suis pas la seule à croire cela. Il se trouve que je n'ai pas encore rencontré l'homme de ma vie, mais je ne renonce pas. J'y aspire de tout mon cœur. J'en suis à ma 6e tentative, hors mariage cette fois, parce qu'il est marié. Et je me suis évidemment taillée une réputation de femme volage. On m'évite, on me montre du doigt, on me juge. Pourtant, je ne fais que chercher l'amour. Où est le mal ? C'est pour cela que je viens en plein midi puiser mon eau. Personne à cette heure-là. J'ai la paix. Aucun chuchotement derrière mon dos. Bien sûr, il fait très chaud. C'est éprouvant. Je ne vois pas comment faire autrement. Jusqu'à ce matin, avec ce juif qui ne devrait pas être là, qui ose outrepasser les frontières religieuses et qui enfreint les conventions établies. Je pressens, comment dire, quelque chose de vrai et d'authentique en lui qui m'attire. Je me demande s'il y a un lien entre ma soif à moi et cette eau dont il me parle. Quel amour pourrait combler mon cœur ? Faisons le rapprochement. Si cette eau est l'amour, il ne s'acquiert pas, il ne s'achète pas, il ne se gagne pas, il se reçoit, puis il rayonne, et c'est cet homme qui le dispense. Mais qui est-il ? Il est midi. Je suis en pleine lumière devant cet inconnu. L'ombre n'existe plus pour un moment. Je ne désire pas lui mentir, ni lui raconter mes déboires amoureux. Qu'est-ce que je lui dis ? Je crois que j'ai trouvé. Je n'ai pas de mari.
Tu dis bien, je n'ai pas de mari. Tu en as eu 5, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai.
Comment le sait-il ? Il peut lire dans ma vie ? L'art divinatoire, je connais. En relation avec des forces obscures, le devin veut nous éblouir avec ses pouvoirs et nous influencer. On le consulte, on croit qu'il nous aide, et finalement, on se retrouve sous son emprise. Ou bien serait-il prophète, envoyé de Dieu ? Je ne pense pas qu'il cherche à m'impressionner. J'opte pour le prophète, parce que, après cette révélation, je le sens soudain plus proche de moi, comme s'il avait pris un raccourci pour me rejoindre. Pas de jugement dans ses paroles. Il me dit simplement où j'en suis finalement. Je respire. Je me sens moins seule. Tant qu'à faire, s'il est prophète, je peux lui poser la question qui me préoccupe depuis un certain temps. Parce que j'ai une autre soif, une soif de vérité, une soif de connaître. Où faut-il adorer Dieu ? Sur le mont Garizim, notre haut lieu de culte à nous, comme le veut notre tradition, ou à Jérusalem, la ville des Juifs dont ils seront si fiers ?
Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont, en effet, les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité.
Je n'ai jamais entendu une chose pareille. Je ne m'attendais pas à une troisième voix. Je suis complètement dépassée. J'essaie de comprendre. L'adoration de Dieu partirait de soi sans aucun rapport avec un lieu. Est-il possible que notre corps avec notre esprit devienne l'espace de la présence de Dieu ? Comment cela peut-il se faire ? Ce prophète est en train de me dire que l'on n'a pas besoin d'aller au temple pour adorer Dieu. Il remet tout en cause alors. C'est un hors-la-loi, un révolutionnaire, un hérétique. Est-ce vraiment un envoyé de Dieu ? C'est insensé. De tout temps, les hommes se sont créés des espaces, des édifices, des objets sacrés. Toutes les religions ont des lieux saints. Et dans un temple, on est sûr de trouver Dieu. On a les rituels qui nous préparent à sa présence. On a des prières à réciter qui nous placent en sa faveur pour qu'il nous exauce. Des sacrifices pour gagner son amour. Des gestes à exécuter qui nous assurent le salut. Comment être sauvé autrement? Et moi, je tiens à être sauvée. Je réfléchis encore. Ce serait l'attitude intérieure qui primerait sur le geste dans ce cas. Ça voudrait dire que l'on devrait passer d'une religion extérieure à une spiritualité intérieure, comme je deviens savante tout à coup. Lui, il a déjà fait le pas, c'est clair. Il est libéré de toute attache aux traditions. Il s'est affranchi des rituels. Ça se sent, ça se voit. Et ça le rend libre de parler à qui il veut. Mais je m'égare et je commence à perdre pied. Je ne vais pas croire tout ce qu'il me dit. Je connais ma religion. Je ne suis pas une ignorante et je vais le lui dire directement. Je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. Nous serons clairs avec lui. Il est vraiment notre référence.
Je le suis, moi qui te parle.
Quoi ? Le Christ en personne, devant moi ? Mais je m'imaginais un sauveur grand, majestueux, puissant, suivi d'une armée d'anges. Pas un homme seul, sans allure, fatigué par sa marche et qui a soif. Alors il serait donc arrivé sous cette forme, dans cet état. Et il discourt avec moi. Incroyable. Tiens, voilà d'autres juifs qui arrivent. D'où sortent-ils? C'est la journée? Quelle tête ils font en nous voyant? Ils ne sont pas tout à fait libérés encore, eux. Mais ils n'osent rien dire devant le Messie. Ce sont sûrement ses compagnons. Bon, moi maintenant, la petite Samaritaine qui a rencontré le Christ, je sens confusément que j'ai eu le privilège d'avoir pu dialoguer avec lui en face à face et que je suis devenue la dépositaire d'une révélation dont je ne réalise pas l'ampleur. Mais je crois que c'est très important. Je vais l'annoncer à tout le monde. Ma cruche, je la laisse là, je n'en ai plus besoin. Je me sens toute rafraîchie, comme traversée par un élan nouveau. J'y cours. Comment m'y prendre? Si je dis aux gens que j'ai vu le Christ qui donne de l'eau, qui désaltère vraiment, et qu'il m'a dit dorénavant d'adorer Dieu en esprit et en vérité, personne ne va me croire, personne ne comprendra. Je vais partir de moi en relatant l'extraordinaire. Je vais leur dire qu'il a lu dans mon passé. Je sais qu'on raffole des pouvoirs surnaturels. Ils éveillent tout de suite la curiosité. Et puis, je leur suggère une réponse qu'ils s'empressent sûrement d'aller vérifier. Venez donc voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? C'est réussi. Les voilà près de lui, assoiffés, buvant ses paroles et découvrant par eux-mêmes le sauveur que l'on attendait. C'est merveilleux. Et moi, je me sens libérée, renouvelée. Cette rencontre a été décisive pour moi. Gloire soit rendue à Dieu. Si je devais me représenter le visage de la Samaritaine, je le verrais sous ses traits. Une femme mûre, sûre d'elle, au regard intelligent et droit, un air déterminée et belle, évidemment, pour avoir connu autant d'hommes. Je vous propose maintenant quelques fruits cueillis lors de cette rencontres extraordinaires. J'en ai retenu 5. Gardez celui qui vous parle le plus. Vous avez remarqué que Jésus parvient, en une toute petite phrase, à casser le mur de séparation et à mettre cette femme en mouvement. Le processus a été très rapide chez elle. De l'étranger, de l'homme qui était assis vers le puits, il est devenu juif, prophète, puis messie. Ce n'est pas toujours le cas. Pour nous, c'est réjouissant de savoir que nos murs à nous ne sont ni définitifs, ni infranchissables, et que Dieu peut les briser. Et inversement, si on se trouve seul devant un mur, on peut peut-être aussi, avec beaucoup d'amour, casser ce mur avec une petite phrase. Et parfois, on imagine des murs qui n'en sont pas. Le don de Dieu, l'eau vive qui désaltère, passe par Jésus le Christ uniquement. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Lui seul peut nous conduire dans la communion du Père. Mais, il y a un mais, il faut prendre conscience de sa soif. Dans le cœur à cœur avec Dieu, c'est une véritable libération qui vous attend. Répondez à cette invitation. Oui, à l'Église, lieu de rassemblement des croyants, mais elle ne doit pas se substituer à la foi personnelle. Oui, à l'Église, mais elle ne doit pas abuser de son pouvoir, ni intimider, ni écraser, ni contraindre, ni juger les croyants. Oui à l'Église, mais ce n'est pas elle qui sauve, comme nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Jésus, le Christ, reste le Sauveur. Si les disciples qui étaient aux premières loges avaient parfois de la peine à suivre ou à comprendre leur maître, il ne faut pas nous en vouloir si nous ne captons pas tout tout de suite. La parole est d'une richesse illimitée, à chacun son rythme. N'aie pas peur d'avancer lentement, crains seulement de t'arrêter. Soyez bénis sur votre parcours de foi. Je vous convie maintenant à un moment de prière méditative. Avec qui tu ne t'entends pas? Donne-moi à boire. Montre-moi avec quelle eau tu te désaltères. Te convient-elle? As-tu de la peine à aller la chercher? Où vas-tu la prendre? Quelle est ta soif à toi ? Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle.